Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Comment reconnaître, identifier un adulte surdoué? C'est notre thème ce matin. Quelles sont les idées reçues qui leur collent à la peau? Les enfants précoces deviennent-ils forcément des adultes surdoués? Comment devenir un adulte à haut potentiel, heureux dans sa vie personnelle et professionnelle? Éléments de réponse avec le pédopsychiatre Gabriel Val et avec la psychologue clinicienne Monique de Kermadec. Questions et témoignages au 01 45 24 7000 par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Sans oublier notre page Facebook. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, que l'on retrouve tous les mardis avec ses choses vues.
Absolument, et ce matin, je suis bien là. Mais ce matin, j'essaierai de parler justement de ce surdon et d'expliquer comment ne pas s'en vanter et ne pas s'en plaindre.
À tout à l'heure. Bonjour Sabrina Nadjar.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles. Quoi de neuf dans votre intervention en fin d'émission?
Eh bien écoutez, nous on va aborder la danse parce que, eh oui, la danse n'est plus un sport de femmes. De plus en plus d'hommes s'y mettent et s'inscrivent à des cours.
À tout à l'heure.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébi.
Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous avez 45 ans, vous êtes consultant en stratégie d'entreprise, vous habitez en Seine-Saint-Denis. Vous êtes un adulte surdoué, Ludovic ?
Je déteste ce terme-là, mais c'est ce que les tests internationaux ont validé il y a un an à peu près.
Alors quel est le terme que vous préférez à celui d'adulte surdoué ?
Moi, j'aime bien le terme de zèbre parce que je suis un drôle de zèbre et que je trouve qu'il correspond assez bien à mon amour de la nature aussi.
Alors, expliquez-nous ce qu'est un zèbre parce que beaucoup d'adultes surdoués.
Il y a d'autres possibilités.
Ouais. Ludovic, beaucoup d'adultes surdoués se décrivent en zèbre. Expliquez-nous pourquoi c'est un terme fréquent dans la communauté des enfants ou des adultes à haut potentiel.
Parce qu'il a été lancé, je crois, par Jean-Cio Fachin. Pour décrire quelque chose qui n'a pas le poids d'un mot comme surdoué ou comme haut potentiel intellectuel, dans lequel on fait tout un tas de projections qui sont assez lourdes à porter sur des épaules qui sont pas toujours calibrées pour.
Qu'est-ce qui a été dur à porter pour vous, Ludovic ?
Un décalage permanent que je vis toujours aujourd'hui, mais maintenant au moins je sais pourquoi et je sais comment à peu près l'appréhender. Et puis le fait que, à cause de ce décalage, les attentes qu'on pouvait faire peser sur mes épaules, justement, j'étais pas capable d'y répondre, mais je ne savais pas pourquoi. Donc il y avait toujours quelque chose de l'ordre de l'insatisfaction, et chez moi et chez les autres.
Comment s'est passée votre scolarité ?
Plutôt bien, c'est-à-dire que j'ai de la chance d'être passé à travers les gouttes, mais de manière... la principale caractéristique de mes carnets de correspondance ou mes carnets de notes, c'était le mot fumiste, ou les mots gâchent un potentiel. Parce que, comme la plupart des gens qu'on qualifie de surdoués, je faisais que ce qui me plaisait. Donc quand quelqu'un était passionnant ou quand un sujet me passionnait, j'étais très bon. Et puis quand ça m'intéressait pas, je faisais le strict minimum. Voire je tournais en dérision ce qu'on me proposait et donc je pouvais avoir des notes catastrophiques ou alors tout juste moyennes, ce qui me valait la qualification de fumiste.
Voire de feignant peut-être. C'était le cas ?
Saignant, non, mais impertinent, etc. Oui, ça, c'est assez régulièrement. Oui.
Alors le déclic survient à 37 ans, c'est ça ?
Oui, un peu par hasard. Je cherchais des livres sur le harcèlement moral parce que à l'époque, l'employeur chez qui j'étais, il y avait des problèmes de harcèlement moral. Et je suis tombé au milieu des livres sur le droit et sur le droit du travail, ce genre de choses, sur le livre de Béatrice Millettre qui s'appelle « Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués ». Et j'ai trouvé que c'était un titre un peu putaclic, comme on dit, pour les sites internet. Mmh. Et ça me surprenait, donc je l'ai feuilleté, parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'on mette ça au milieu des autres livres beaucoup plus sérieux, a priori. Et je me suis reconnu dans quasiment toutes les anecdotes qu'elle raconte. Et donc, je me suis dit, OK, il doit y avoir quand même quelque chose dans ce livre. Donc, je l'ai acheté, je l'ai dévoré. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, ah, OK, d'accord, il y a donc... 5, 10%, je ne sais pas exactement, de la population dont je fais partie probablement, qui est décalée, et c'est ainsi.
Est-ce que ça vous a poussé, la lecture de ce livre, à passer un test de QI ?
Alors, pas tout de suite, parce que globalement, j'avais les réponses à peu près tout ce dont j'avais besoin. Enfin, en tout cas, ça m'a suffisamment éclairé pour que j'arrive à continuer à avancer et même à progresser grâce à ça. Et en fait, j'ai passé le test seulement l'année dernière, donc 8 ans plus tard. Parce que je suis devenu papa et avec la naissance de mon enfant, toutes les questions sur mon passé, l'école, le rapport aux autres, etc., ont rejailli en me disant qu'est-ce qui va se passer pour mon fils. Et alors, mon épouse et moi-même, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que je passe le test pour que ça soit sûr et que ça soit qualifié, quantifié, etc. Et que donc j'ai pu me poser des questions quant à moi pour que je puisse me consacrer réellement à mon enfant.
Quelles ont été les réactions, vos réactions, à la lecture des résultats de ces tests de QI ?
Ah, j'ai été sidéré parce que j'ai passé une heure avec une psychologue qui ne m'avait absolument jamais vu et qui ne savait rien de moi, si ce n'est que je m'étais inscrit pour passer le test. Et quand elle m'a fait la restitution du test, j'avais l'impression qu'elle me connaissait depuis 40 ans. C'était d'une précision extrême sur mes faiblesses, mes forces, là où je suis vraiment très à l'aise et là où je ne suis pas. Et ça a entraîné chez moi un double sentiment, un sentiment de colère, parce que dans les mois qui ont suivi, je suis depuis 20 ans, au moins 20 ans, j'arrive à quantifier, toujours en avance sur mon temps. Pour dire, j'ai lancé une entreprise de covoiturage en 97, quand tout le monde me disait « Ah mais non, ça marchera jamais ». Moi j'avais le sentiment, j'avais l'intuition, qui est aussi une caractéristique forte, que ça allait se développer. Bon, on voit ce qu'il en est aujourd'hui.
Il y a eu Blablacar, exactement.
Et puis, donc j'étais en colère parce que ce test, il mettait le doigt là-dessus. Il disait, vous êtes extrêmement doué pour savoir à l'avance et pour déterminer ce qui va se passer. Et je me dis, s'il y a un outil aussi précis qui permet de savoir qui sont les gens qui sont capables de dire à l'avance, pourquoi est-ce qu'on les met pas en avant et pourquoi est-ce qu'on les écoute pas un peu plus? Ça nous permettrait de gagner du temps, notamment par rapport au réchauffement climatique, aux ouragans, etc. Parce que ça fait 20 ans que j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Ça, c'était le premier sentiment. Et le deuxième sentiment, c'était au contraire un apaisement, de me dire, alors il a fallu quelques mois, mais de me dire, ok, voilà, maintenant je sais exactement, c'est quantifié, c'est scientifiquement montré, c'est à tel endroit que je suis vraiment bon, c'est à tel endroit que je peux progresser, c'est à tel endroit que de toute façon, quoi que je fasse, je serai toujours à côté de la plaque. Et donc, ça va mieux de ce point de vue-là.
Voilà. Ludovic, question.
Le décalage, il est toujours dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle, il reste un marqueur.
Ludovic, question un peu difficile, mais est-ce que vous êtes plutôt heureux aujourd'hui ?
Je crois. Comme beaucoup de surdoués, je suis jamais très sûr. Et puis, la question est qu'elle est... Mon humeur est très variable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis de très bonne humeur, parce que je fais cette émission et qu'on parle des surdoués et que c'est une bonne chose que ça se sache, que ça existe, qu'il y a des gens un peu en décalage. Demain je pourrais être de très mauvaise humeur, ça c'est très très variable.
Bon, on a bien fait de nous avoir matin alors, Ludovic. Juste une réaction de Gabriel Val, hein, auteur d'un Que sais-je sur les adultes surdoués, et de Monique de Kermadec, auteur de l'adulte surdoué. Bonjour à tous les deux. Commentaire sur ce que vient de nous raconter. Écoutez, Ludovic.
Je pense à une formule juste à propos de cette dernière phrase, je ne sais plus qui avait dit que le drame du monde c'était que les imbéciles sont sur deux et les gens intelligents doutent de tout. Voilà, donc cela répond un peu. Alors sinon, c'est vrai que la question que vous avez posée, c'est la question que j'avais envie de lui poser. Si à l'échelle de votre vie, pas seulement pour la situation actuelle, vous faites la somme de vos bonheurs et de vos malheurs, qu'est-ce qu'il emporte, y compris dans l'enfance ?
Moi, j'ai la chance, par rapport à d'autres zèbres que j'ai croisées, d'avoir été plutôt épargné parce que j'ai grandi dans un milieu en décalage. Et donc ce milieu en décalage, mes parents qui sont immigrés, qui travaillaient dans le théâtre, enfin c'est, voilà, ils m'ont donné une possibilité d'être moi-même, tout en n'étant pas satisfait de mes résultats à l'école, mais enfin c'était pas l'essentiel. Et donc je suis passé plutôt à travers les gouttes de ce point de vue-là par rapport à d'autres gens que j'ai rencontrés. Et donc globalement, le bilan, je le trouve plutôt positif aujourd'hui.
Oui. Monique de Kermadec.
Sur l'ensemble de mon existence, y compris dans mon enfance.
Oui, j'ai beaucoup apprécié votre témoignage parce qu'il retrace bien le parcours de ces adultes surdoués, le temps qu'ils mettent à mettre un mot sur qui ils sont, à comprendre que leur façon de fonctionner n'est pas un problème, mais que c'est une façon qui est tout à fait acceptable de pouvoir enfin s'autoriser à vivre et à vivre tel que l'on est. J'ai par contre un petit commentaire j'aimerais faire sur le mot surdoué, parce que c'est un mot qui dérange de nombreuses personnes. Or, c'est un terme technique, c'est un terme scientifique, et lorsqu'on le modifie, on déplace, je dirais, le sujet et on le met sur un autre plan sur lequel il y a beaucoup à dire.
Gabriel Val.
Alors pour ce qui est du mot, on pourrait simplement prendre la traduction de l'anglais, c'est-à-dire gifted, c'est-à-dire doué. Et c'est vrai que l'idée que l'on peut entendre dans le mot surdoué, c'est qu'il y aurait un excès de dons, et donc un excès qui pourrait confiner à la pathologie. Donc c'est quand même un petit problème. Alors, donc c'est vrai qu'on pourrait tout simplement dire doué.
Et c'est un terme qui est né sous la plume de Léon Daudet en 1932.
Ah oui, mais vous avez de très bonnes lectures.
J'ai bien lu votre livre.
Oui, d'accord.
Merci beaucoup Ludovic de nous avoir appelé. Comme Ludovic, eh bien, si vous êtes un adulte surdoué ou si vous en côtoyez, nous attendons vos questions, témoignages et réactions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook. Cette émission est préparée par Alexia Rivière, Claire Destacan et par notre journaliste Théo Denmat, avec l'aide d'Antoine Vandeville, et c'est réalisé par le petit génie de la réalisation, plus si jeune que ça d'ailleurs, Éric Lenné.
J'ai un quotient intellectuel de 130. Cela signifie tout simplement que je suis doué d'une intelligence exceptionnelle. C'est important l'intelligence. L'intelligence, c'est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. Don't play that song for me.
Est-ce que c'est bon, Aretha Franklin, à 10h21. Don't play that song.
France Inter.
Je compte jusqu'à 3.
Grand bien vous fasse.
1, 2, 3, fantastique.
Et il n'est pas surdoué, ni précoce, ni en avance.
Sur France Inter.
Comment identifier un adulte surdoué, c'est notre thème ce matin. Alors, on va évoquer dans quelques instants quelques critères pour identifier un adulte surdoué. Mais Gabriel Val, décrire la personnalité des adultes surdoués reste assez difficile. Tous les adultes surdoués ne sont pas taillés dans la même roche.
Tout à fait. C'est d'ailleurs l'un des problèmes, c'est que toute expression sur la personnalité de l'adulte surdoué est nécessairement une généralisation qui ne donne pas toute l'image de la complexité. J'ai pour ma part repris, j'en ai trouvé une centaine, de caractéristiques de la personnalité des surdoués. Et je les ai livrées à 64 surdoués en leur disant donnez-moi votre barème. Et donc j'ai codifié sur cette base seulement. Alors des surdoués, je précise, que j'ai reçus dans mon cabinet de consultation, mais également des surdoués de la vraie vie. Et on arrive à en quelque sorte une liste de 20 items, de 20 caractéristiques qui sont plutôt heureuses. Par exemple, si je peux citer les premières, avez-vous une grande curiosité intellectuelle, êtes-vous capable d'être en admiration intense face à des œuvres d'art, vous passionnez-vous, souffrez-vous pour des problèmes métaphysiques, mais qu'il faut bien distinguer de la souffrance anxieuse, etc. Possédez-vous un large vocabulaire? Êtes-vous perfectionniste ou avez le goût de la précision de l'idée juste? Détestez-vous que l'on simplifie les idées complexes ou que l'on complexifie les idées simples, etc., etc., etc. Et on n'a pas du tout une image très sombre.
Monique de Kermadec.
Je suis tout à fait d'accord avec votre liste. En consultation, par contre, je dirais une des premières caractéristiques évoquées, c'est l'hypersensibilité. Bon nombre d'adultes viennent parce qu'ils souffrent. Ils souffrent du décalage qui existe entre leur façon de réagir au monde, de réagir aux autres, et la façon, je dirais, normale, entre guillemets, de réagir. Et c'est la toute première chose qu'ils mentionnent. Peut-être l'avez-vous vu dans votre questionnaire.
Oui, mais précisément, j'essaye de m'intéresser à ce sujet hors de, si j'ose dire, de la psychologie de cabinet. Cabinet de consultation, on s'entend. Parce que nous avons, par définition, une population qui n'est pas représentative. Nous avons le pourcentage qui consulte. Et on pourrait d'ailleurs, sur la base des théories que l'on fonde sur les consultations, faire la même chose pour les normaux doués. C'est-à-dire, on pourrait dire, ah bah, quand on a un QI à 100, on est très malheureux dans la vie. Et la preuve, c'est que tous mes consultants sont malheureux, sont douloureux, sont anxieux, sont déprimés.
Oui, tout à fait. Mais vous avez raison de souligner qu'il y a autant de surdoués que d'individus. Nous sommes tous différents. Et il y a aussi, je dirais, nos personnalités qui vont s'ajouter à ce surdon. Il y a parfois certaines pathologies qui vont coexister avec une douance aussi.
Oui, donc, mais cette coexistence, toutes les statistiques le montrent, n'est pas supérieure pour les surdoués par rapport aux autres catégories de la population. Donc par conséquent, elles sont sans objet pour comprendre le surdon. S'il n'y a pas plus d'anxiété chez les surdoués que chez les normodoués, je mets des guillemets à ces expressions, il n'y a aucune raison de faire un lien de cause à effet.
Mais Gabriel Val, pour vous, le problème, c'est l'extrapolation, c'est-à-dire attribuer une caractéristique particulière d'un surdoué à l'ensemble du groupe surdoué,
oui, bien
un groupe
sûr,
de surdoués.
C'est l'un des mots français, si j'ose dire, pour ce qui est de l'approche psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a tendance à considérer que quelques cas cliniques que l'on reçoit en cabinet pourraient avoir valeur universelle. Et les anglo-saxons, qui est, ma première source de référence, font exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ils prennent 400 surdoués, 400 non-surdoués, ils les comparent et ils voient s'il y a des différences.
Je crois qu'il y a une grande différence entre les études statistiques, les études, je dirais, de scientifiques sur le sujet et d'une pratique au quotidien avec ces adultes et ces enfants surdoués. Parce qu'au-delà de 25 ans de pratique, il y a quand même des constantes que l'on retrouve, que ce soit avec les enfants et les adultes. Et ne serait-ce que par rapport à l'anxiété, on voit chez les enfants précoces une certaine anxiété qui n'est pas nécessairement pathologique, mais qui est liée à leur capacité à comprendre les conséquences dramatiques de certaines situations, mais une immaturité affective qui ne leur permet pas de faire face.
Christophe André.
Alors, c'est un débat passionnant et compliqué. Alors moi, j'ai encore une petite complication à vous soumettre, puisque vous êtes deux experts. Il y a ce qu'on appelle l'effet Flynn, que vous devez connaître,
oui,
qui décrit l'élévation du QI moyen dans les populations, notamment les populations occidentales apparemment. Et aujourd'hui, il semblerait que la norme, le QI moyen, soit plutôt 120 que 100. Alors, je ne sais pas, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces travaux? Et est-ce que ça ne doit pas nous amener un peu plus de modestie quand on fait des QI à nos enfants, qu'il est à 120? C'est un enfant normo-intelligent, finalement.
Gabriel Val.
Alors, c'est presque un mystère, l'effet Flynn. Bon, on peut considérer qu'en effet, notre civilisation a offert plus de talent à notre cortex. Ça pourrait expliquer l'effet Flynn, sauf que parfois, il baisse. Donc, d'une décennie à l'autre, on peut avoir des élévations ou des baisses. Et surtout, il faut quand même préciser que si le critère du QI est indispensable, parce qu'il permet même de façon approximative de chiffrer, il reste quand même quelque chose d'assez aléatoire. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que tous les 10 ans, les tests internationaux, donc essentiellement le WISC pour les enfants et la VAIS pour les adultes, sont remodelés pour tenir compte de l'évolution du décor social, du décor culturel.
Bonjour Audrey.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission, d'où appelez-vous?
Alors, j'appelle de Strasbourg.
Alors, vous avez passé des tests à votre fille.
Oui.
Des tests de QI.
En fait, oui, des tests de QI parce que l'institutrice trouvait qu'elle lisait trop.
On ne lit jamais trop, vous savez, Audrey.
Voilà, oui, je suis professeure de français, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle trouvait qu'elle était un peu différente des autres. Et donc, en entendant que qu'elle lisait énormément à la maison. En fait, elle a commencé par émettre des doutes sur le fait que ce soit possible à l'âge de 8 ans de lire des tomes et des tomes de livres de littérature jeunesse les uns après les autres. Quand elle s'est rendue compte que c'était vrai, elle m'a conseillé d'aller lui faire passer un test, ce que j'ai fini par faire. Voilà.
Et un QI
donc,
de...
Le papa de ma fille, mon compagnon, n'était pas d'accord. Et après discussion, bon, on est quand même allé faire passer ce test à notre enfant. Et il s'est avéré qu'elle a un QI de 150, en fait.
Bien.
Donc, a priori, assez élevé.
Et vous avez été testé également ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le cabinet, en fait, le psychologue m'a conseillé le livre de votre invité, Monique de Kermadec, hein, je crois, que j'ai lu, en me disant, voilà, vous... Lui s'inquiétait en fait beaucoup du niveau de QI de ma fille en me disant bon le souci c'est pas l'intelligence c'est la sensibilité et tous les éléments annexes qui peuvent être liés à ce surdoué. Donc il m'avait un peu inquiété en fait donc, d'où le fait que j'ai acheté un certain nombre de livres et que je les ai lus. Et là le choc en fait ça a été de plutôt me reconnaître moi en fait dans les livres que j'ai lus. Tout en reconnaissant qu'il y a évidemment plein de traits qui étaient particuliers à ma fille.
Qu'est-ce que vous avez reconnu chez vous ? Qu'est-ce que vous avez reconnu chez vous ?
Le plein de souvenirs de jeunesse en fait. Voilà sur des remarques qu'on me faisait sur le fait que je parlais trop vite, que je répondais trop vite, que ça pouvait être agaçant pour les autres, en fait, le fait que je donne toujours les réponses trop rapidement à l'école, par exemple, que je pose tout le temps des questions à mes parents. Hein, ils m'avaient appelé mademoiselle pourquoi quand j'étais petite, etc., etc. Enfin,
Monique de Kermadec, sur le témoignage d'Audrey.
Oui, vous soulignez un point très important qui est que bon nombre de parents vont aboutir eux-mêmes en consultation parce que, ayant fait la démarche pour leur enfant, se reconnaissant dans le parcours de l'enfant, ils s'autorisent enfin à se poser des questions. Et ils, non pas que ceci doit être fait systématiquement, mais il est certain que il est important de s'autoriser à se poser cette question. Je pensais aussi avec amusement qu'il y a de nombreuses années, quand un enfant était précoce, la mère généralement disait « Oui, mon mari est brillant et a fait de très belles études. » Avec les années, les femmes sont un petit peu plus assertives et vont maintenant dire « Effectivement, moi aussi, je suis peut-être concernée. »
Question que se pose peut-être Audrey, Gabriel Val, et c'est une question qu'on nous pose fréquemment ce matin. Les enfants intellectuellement précoces deviennent-ils forcément des adultes surdoués ?
Oui. Oui, en effet, on garde sa taille physique et on garde aussi sa taille corticale. Et donc, par conséquent, très majoritairement, je ne crois pas qu'il y ait de contre-exemple bien connu, en dehors d'accidents, évidemment, biologiques ou cérébraux, de ce que l'on pourrait perdre son talent avec l'âge. Et on ne peut pas le gagner non plus, d'ailleurs, lorsqu'il fait défaut.
Les adultes surdoués sont-ils spécifiquement plus sensibles et plus émotifs que les non-surdoués comme moi ? C'est une idée martelée quand on parle des surdoués. Vous faites d'ailleurs référence dans votre ouvrage aux travaux d'un psychiatre polonais, Dabrowski, hein, qui parle d'hyperstimulabilité. L'hyperstimulabilité, c'est-à-dire l'hyperstimulation psychomotrice, de l'imaginaire, des sens, des émotions, de intellect. Que nous dit une méta-analyse publiée en 2014 sur l'éventuelle hyperstimulabilité des surdoués ?
D'accord. Alors là, c'est vraiment...
Je sais, la question était très longue.
Oui, la question était très longue, mais je ferai une réponse également très longue, donc vous m'y autorisez, parce que c'est un sujet complexe.
Oui, allez-y.
En réalité, si on veut mettre un peu les pieds dans le cortex, il y a deux grandes écoles en France. Et d'ailleurs, finalement, vous avez fait un très joli plateau, puisque Madame de Kermadec représenterait une école et j'en représenterais un peu une autre. Il y a une école que je qualifierais un peu de la dramatisation du surdon et qui, en effet, abonde dans des descriptions où les surdoués sont anxieux, sont émotifs, sont sensibles, sont dépressifs, échouent dans tous les domaines, dans leur vie personnelle, etc., etc. Et une autre école qui, considérant les seules statistiques, bien sûr c'est faillible une statistique, mais enfin c'est un petit peu plus fiable quand même que le vécu personnel d'un cabinet de consultation, qui disent au contraire que les surdoués, pour ce qui est de la personnalité, ont plutôt de la chance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus anxieux, ils le sont peut-être un peu moins pour ce qui est des enfants, ils ne sont pas plus déprimés, ils réussissent mieux scolairement, ils réussissent mieux professionnellement. Par contre, ils ont des difficultés d'adaptation. Par exemple, à l'école, ils s'ennuient. Par exemple, avec leurs camarades, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, etc., etc.
Monique de Kermadec.
Le surdoué n'est pas un animal de laboratoire, et même s'il fait l'objet de statistiques, je pense que le surdoué n'a pas à être abordé de façon globale en fonction des statistiques. Ce qui compte, c'est ce que nous entendons lorsque nous sommes à leur écoute, lorsque nous avons affaire avec eux, lorsqu'ils viennent avec certaines questions et certaines souffrances. Et lorsque vous parliez d'adultes surdoués et comment le sait-on, je dirais qu'un problème majeur dans notre société est que nous pensons que si nous sommes surdoués, nous devons systématiquement réussir. Or, je ne suis pas dans le catastrophisme, je crois à la réussite et il y a 15 ans, j'ai publié sur réussir. Je pense que nous avons tous droit à chercher à réussir notre vie. Par contre, je ne suis pas dans le catastrophisme en disant que les adultes surdoués, par définition, doivent souffrir ou échouer.
Audrey, sur la question de l'hypersensibilité, vous concernant ou concernant celle éventuelle de votre fille ?
Complètement, oui. Alors là, c'est vraiment... Oui, c'était aussi un aspect de ma personnalité ou de la personnalité de ma fille qui est assez saillant. Le dernier dessin animé que je l'ai emmené voir au cinéma, tout à coup, il y avait un passage un peu poignant, la petite héroïne était malheureuse, enfin voilà. Ma fille s'est mise à sangloter, elle a mis un quart d'heure à s'en remettre dans mes bras. Elle a 9 ans hein, quand même, hein, donc elle est pas si petite que ça. Donc elle est vraiment totalement à fleur de peau. Moi aussi, mais quelque part, maintenant que je suis adulte, j'ai une quarantaine d'années, je trouve que c'est plutôt une chance, en fait. Donc moi, je fais partie des surdoués qui, donc, à l'occasion des tests de ma fille, a été testée aussi. Enfin voilà, donc j'ai le même genre de QI que ma fille. Je trouve que c'est plutôt une chance parce que effectivement, je vis les choses de manière très très intense. Je m'intéresse à plein de choses et. A posteriori, en fait, voilà, ça m'a permis d'expliquer un certain nombre d'éléments qui me différenciaient des autres enfants quand j'étais plus jeune. Et finalement, ça, je pense que c'est vraiment une chance, en fait. C'est vrai que ça me frappait un peu à force de lire des livres, parce que j'en ai lu plein pour essayer de me faire un peu une idée de ce surdon qui me fait un peu dessus comme ça à 40 ans. Et ça m'a frappé effectivement le fait qu'on pointe tout le temps les difficultés. Mais bon, je pense qu'effectivement, c'est lié au fait que les gens qui viennent consulter Madame de Kermadec sont des gens qui ne sont pas forcément très très bien dans leur peau.
Merci beaucoup.
Je pense qu'on peut aussi être surdoué et être très bien dans sa peau. Mais juste, j'avais une dernière question ou remarque.
Allez-y.
C'était le fait de me rendre compte que j'ai l'impression que les gens se... Enfin, c'est un peu une vérité, une apaïssade. Qui se ressemble, s'assemble. Ce qui me frappe maintenant, c'est de me rendre compte... À mon avis, autour de moi, il y a plein d'autres de mes amis qui sont comme moi. On vient de se rendre compte avec ma meilleure amie, sa petite a 4 ans, elle sait lire et écrire couramment. Et donc, on se dit voilà, que certainement, elle est comme ma fille, comme moi. Et je
Audrey Gabriel Val aimerait vous répondre.
Bon, oui, merci pour cette toute petite remarque là qui peut aller très loin. C'est-à-dire qu'en effet, je pense que le surdon, c'est une chance. Mais que le surdon n'est pas sans risque, et notamment lorsque l'on est dans un milieu qui ne nous ressemble pas. Mais c'est vrai pour l'humanité tout entière. Donc en effet, un enfant surdoué a besoin d'un environnement qui lui parle.
Merci beaucoup Audrey de nous avoir appelé. Allez, 10h35, il est temps de retrouver les choses vues de notre psy préféré, Christophe André.
Choses vues.
Je suis votre thérapeute.
Christophe André.
Christophe André, notre sujet du jour vous a évidemment inspiré.
Ah oui, beaucoup, puis ça m'a fait trembler, parce que le fait d'être écouté par des milliers de surdoués à cet instant, qui vont juger ma chronique, vraiment, est très inconfortable. Enfin bref, notre sujet m'a beaucoup inspiré, effectivement. Ça m'a inspiré d'abord de la prudence et des questions. Par exemple, est-ce que la mesure du quotient intellectuel, du QI, est un bon reflet de ce qu'on appelle communément l'intelligence ? Et quand bien même ça serait le cas... Est-ce que, tout comme l'amour ne suffit pas à rendre un couple heureux, l'intelligence ne risque-t-elle pas d'être insuffisante, elle aussi, à rendre une vie belle pour soi et pour les autres ? Mais tout ça m'a rappelé aussi un grand livre sur le cerveau qu'il y avait chez nous quand j'étais petit et qui me fascinait. On y voyait notamment une double page avec des nombreux personnages célèbres dont on avait rétrospectivement, je me demande bien comment, évalué le QI. Goethe était considéré comme le grand champion avec un QI à 210. Il y avait aussi Voltaire, Newton, Descartes, Napoléon et quelques autres. Ce livre et l'esprit de l'époque présentaient le QI comme la clé du bonheur et de la réussite. Plus tard, une fois devenu psy, je me suis aperçu que c'était un peu plus compliqué que ça et que l'intelligence n'empêchait pas forcément la souffrance et l'échec. Certains de mes patients, alors qu'ils certes ne représentent sans doute pas l'ensemble de la communauté des surdoués, certains de mes patients m'expliquaient que leurs difficultés venaient de leur trop grande intelligence, qu'ils étaient inaptes à la vie avec des gens ou des environnements moins intelligents qu'eux. Parfois, pour protéger leur estime de soi, certains rejoignaient une association qui s'appelait la Mensa, qui était, si j'ai bien compris, une sorte de club réservé aux gens dotés d'un très gros QI. Plus récemment, nous avons eu toute une vague de travaux sur les précoces, les surdoués, qui nous ont rappelé effectivement que le QI ne garantit pas toujours performance et bonheur. Et puis, même sans être psy, nous savons aussi que chacun de nous peut être à la fois très intelligent dans certains domaines et très con dans d'autres.
Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Ah, Christophe André, si vous saviez tous les domaines où je suis complètement con.
Mais écoutez, on est deux, cher Ali. Alors finalement, ce qui nous aide à devenir de meilleurs humains ne se résume évidemment pas au QI. Dans ce qui compose ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de vie, il y a aussi l'humilité, la bonté, les compétences émotionnelles, la persévérance, l'humour. Cette intelligence de la vie, c'est elle qui nous permet de nous adapter à nos environnements scolaires, professionnels, personnels, de nous adapter aux autres, aux difficultés. C'est elle aussi qui nous permet d'évoluer, de nous remettre en question, de faire des efforts pour nous changer, au lieu de considérer que les problèmes viennent seulement des autres ou de la société. Et cette intelligence de vie, enfin, c'est elle qui nous amène à ne plus mettre notre QI sur la table, ni pour nous en vanter, ni pour nous en plaindre. Et vous, cher Ali, avec votre bonne tête d'adulte surdoué, ça se passait comment avec votre cerveau quand vous étiez petit à l'école? C'est tranquille? Vous sentiez que vous aviez de la marge?
Vous voulez que je vous parle de mes cours de maths?
Ça m'intéresserait.
Hein non, mais c'était plutôt les sous-doués. Bon, bref. Monique de Kermadec.
Oui. Christophe André, vous êtes en train de souligner quelque chose de fondamental. Je crois qu'un adulte surdoué, pour réussir sa vie, a besoin d'utiliser une intelligence émotionnelle, a besoin d'utiliser une intelligence pratique, a besoin d'utiliser d'autres intelligences. Et si nous nous focalisons uniquement sur le QI, je pense que nous sommes voués à pas mal de souffrances et d'échecs.
Merci Christophe André, vous restez évidemment avec nous. Et je rappelle que Grand Bien Vous Fasse se décline hors antenne, avec vous d'ailleurs, Christophe André. France Inter vous propose tout au long de l'année un cycle de conférences Bien Vivre Ensemble. Premier opus, le 16 octobre prochain à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio et en direct dans une cinquantaine de cinémas partout en France. Christophe André, nous méditerons ensemble sur les bienfaits de la bienveillance. Deux grands témoins avec nous, la comédienne et chanteuse Rachida Brakni et la pédiatre Catherine Guéguin. La billetterie est ouverte depuis ce matin sur le site maisondelaradio.fr. Toutes les infos sur les pages Facebook de France Inter et de Grand Bien Vous Fasse.
Vous êtes prêts? Envoyez, Bob. Très bien. Répondez aussi vite que vous pourrez. Quel âge a une personne née en 1928?
Homme ou femme?
Quel âge a un individu de sexe masculin né en 1928?
Encore vivant?
Un individu de sexe masculin né en 1928 qui est toujours en vie. Quel âge a-t-il aujourd'hui?
Quel mois?
Un individu de sexe masculin né le 3 octobre 1928 qui est toujours en vie. Quel âge a-t-il aujourd'hui?
À quelle heure?
À 10h du soir. À 22h pile.
Où ça?
N'importe où!
Voyons, soyez plus précis, Bob, parce que, attention, si le type est né en Californie le 3 octobre 1928 à 22h pile, il a 67 ans, 9 mois, 22 jours, 14 heures et 12 minutes. Et s'il est né à New York, il a 3 heures de plus.
Un extrait du film Phénomène avec John Travolta. Gabriel Val, à partir de quel chiffre de QI est-on considéré comme un adulte surdoué? Et une question sur notre page Facebook posée par Sophie. J'aimerais savoir où l'on peut faire les tests de façon fiable et sûre et auprès de qui? D'abord, à partir de quel chiffre de QI est-on considéré comme un adulte surdoué?
Je vais répondre rapidement parce que c'est plutôt du domaine de la psychologie que de la psychiatrie. Mais je vais quand même donner quelques points. Alors, en principe, mais c'est naturellement un peu arbitraire, le quotient intellectuel supérieur à 130 témoigne d'une intelligence qui rentre dans la catégorie du surdon. Sauf que dans le QI global, il y a la somme d'indices et qu'il suffit que l'un ou l'autre de ces indices soit très élevé pour qu'on puisse s'interroger sur la capacité d'un surdon. d'autant que certains indices sont plombés par un certain nombre de troubles. Par exemple, chez l'enfant, il y a 4 indices pour le WISC 4 et 5 indices. Si les deux premiers sont excellents et que les derniers sont pas très bons, voire même inférieurs à la moyenne, on peut quand même parler de surdon, parce que par exemple, on aura un diagnostic combiné ou une identification de surdon associée à un TDAH, c'est-à-dire une hyperactivité ou un trouble de l'attention. Voilà, donc c'est l'analyse assez subtile, assez complexe du test, et donc le fait de dire 130, c'est un repère intéressant, mais ce n'est pas suffisant pour apprécier les choses. Donc
quel est le test le plus utilisé en France? C'est le WISC 4 ?
WISC, oui.
WISC 4 ?
WISC 4 pour les adultes et en principe WISC 5, puisque c'est le dernier né.
Mais pour les adultes, le WISC 4 ?
Pour les adultes,
4.
C'est WISC 4.
Alors, que,
mais là, je vous laisse peut-être...
Qui peut faire passer ce test, Monique de Kermadec ?
Des psychologues qui ont effectivement une pratique du test, parce que je crois que l'enjeu n'est pas simplement d'obtenir, comme vous le soulignez, justement, un chiffre de QI global, c'est tous les résultats intermédiaires sont importants pour comprendre la personne, pour donner des conseils, et pas simplement pour dire surdoué ou pas surdoué.
Gabriel Val, il existe des outils pour pré-identifier une personnalité surdouée. Vous proposez d'ailleurs dans votre ouvrage le questionnaire atypique, A-T-I-P-I-C.
Oui.
Vous pouvez citer quelques items,
eh bien,
quelques questions.
J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, alors je peux peut-être continuer la liste. Donc, large vocabulaire, goût de la précision, plaisir à jouer avec les mots, à jongler avec les paradoxes, à inventer, à découvrir des métaphores, le goût de l'humour, de l'ironie, une mémoire étonnante, un goût immodéré pour la lecture.
C'est Christophe André, ça. Vous verrez ça un portrait de Christophe André.
Grand plaisir à échanger et à confronter des idées, idéalisme, contraste étonnant entre une sagacité habituelle et une certaine naïveté dans certains domaines, ce que vous appeliez peut-être tout à l'heure l'intelligence et la connerie. Excellent résultat scolaire, excellence dans le domaine de l'intelligence. Par exemple, ce monsieur qui a lancé une entreprise, bah, c'est forcément de l'excellence. Imagination, inventivité, créativité.
Gabriel Val, on va demander à Muriel avec nous au téléphone si elle se reconnaît peut-être dans certains items que vient de citer Gabriel Val. Bonjour Muriel.
Oui, bonjour, bonjour. Ben oui, quelques-uns, mais pas tous.
D'accord.
Et effectivement, ce qui m'interpelle, c'est de se dire, ben, j'ai tellement l'impression d'être, et je pense que je le suis, archi-normal. Après, voilà, la personnalité fait que, et le tempérament, hypersensibilité, peut-être beaucoup plus que la moyenne, mais à la limite, est-ce qu'il y a besoin d'être ou précoce ou surdoué pour l'avoir, je sais pas. En tout cas, ça, oui, je le ressens très clairement et ça peut être handicapant souvent.
Muriel, vous avez passé des tests de QI,
oui,
et vous avez passé des tests de QI, Muriel, c'est ça?
Ouais, quand j'étais à l'école en troisième.
Et vous avez explosé les compteurs.
C'était plutôt rigolo. Moi, je l'ai pris comme un jeu parce que j'étais vraiment pas une flèche à l'école, loin s'en faut. J'aimais pas ça, je m'ennuyais. Je préférais beaucoup plus rigoler. Enfin, j'avais plein d'autres activités qui me paraissaient beaucoup plus saines. Et puis quand il y a eu ce truc-là, au moins ça changeait, c'était drôle. Donc on l'a fait tous, d'ailleurs, la classe entière. On y a été la fleur au fusil, et puis après les résultats sont tombés. Donc pour le coup, voilà, moi je me suis retrouvée avec ce dossier dans les mains, avec un il y avait les minima, les moyennes, les hauts. Bon, bah je faisais partie des très hauts. J'avais vraiment pas l'impression, j'ai cru que c'était une erreur. Et puis d'ailleurs, on n'en a jamais rien fait. Je me rappelle même plus si ma mère s'en souvient. On a continué, j'ai continué une scolarité désastreuse, mais dans la joie et l'allégresse. Et puis voilà, après, je sais pas, quelque part, c'est ce que je disais, ça m'a d'un côté donné confiance en moi, parce que c'est comme si je découvrais que bon, bah, il y avait des trucs qui étaient possibles. Et puis d'un autre côté, parfois je me disais, mais c'est pas possible, il y a une erreur, parce que là, c'est complètement con, ça, j'y arrive pas, donc voilà, je me trouvais vraiment pas plus aidé que ça avec tout ça.
Merci beaucoup.
Mais je pense que je l'ai gardé au fond de moi et que ça m'a comme donné une espèce de confiance que j'avais peut-être pas.
Merci beaucoup Muriel pour votre joli témoignage. Et bien comme Muriel, vous pouvez réagir au 01 45 24 7000 juste après le disque. On se demande comment être un adulte surdoué, heureux dans sa vie personnelle et professionnelle.
Heart again, saying that you do intervene.
l'excellent Nick Mulvey, Unconditional.
Grand bien vous fasse.
Je ne sais pas comment on arrête la douche. Il y a trop de robinets.
Pardon ?
C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.
Sur France Inter.
Oui, je ne suis pas un surdoué en anglais. 10h49, comment identifier un adulte surdoué ? C'est notre thème ce matin. Question, le quotient intellectuel fait-il à lui seul l'adulte surdoué ? Quid de ce que certains professionnels appellent le quotient émotionnel ? Selon les deux chercheurs Meyer et Salovey, qui ont lancé des travaux sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est l'habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Christophe André.
Alors on sait tous que cette intelligence émotionnelle est importante, que ce soit pour les surdoués ou pour les autres, mais par contre les outils pour la mesurer sont quand même pas très bien, pas tout à fait au point par rapport à ceux qui évaluent le QI.
Question par courriel d'Héloïse de Bordeaux qui nous dit « Mon frère plus jeune de 5 ans, aujourd'hui âgé de 28 ans, a toujours été en décalage avec les autres, incompris, à la fois toujours trop mature et très bébé. Il connaissait son alphabet et ses chiffres à 2 ans. Aujourd'hui c'est un adulte complexé qui n'a pas réussi à trouver sa voie professionnelle, qui ne réussit pas à construire une relation amoureuse et qui a tendance à se renfermer sur lui. Il n'a jamais été vraiment testé ni suivi. Il se sent toujours à l'écart de la société. » Gabriel Val.
Le conseil qu'on pourrait donner éventuellement, c'est en effet qu'il puisse passer des tests de QI déjà pour résoudre ce problème. Ensuite, l'oublier, considérer les difficultés qu'il a, indépendamment du QI, parce qu'il ne faut pas tomber dans ce que j'appelle la surattribution, c'est-à-dire s'il est anxieux, c'est parce qu'il est surdoué, s'il est déprimé, c'est parce qu'il s'il a des difficultés d'adaptation, c'est pas, etc., etc. Donc je pense que l'attitude rationnelle, lorsque l'on est face à un test de QI pour un patient qui a des difficultés dans la vie, c'est de l'oublier, et ensuite se préoccuper de la possibilité qu'il y ait d'autres diagnostics indépendants.
Monique de Kermadec, que sait-on de façon fiable sur l'épanouissement des adultes surdoués dans leurs vies intimes et personnelles ?
C'est-à-dire que nous n'avons pas tellement d'études au travers des années pour voir ce qui est arrivé à des enfants précoces, arrivés à l'âge adulte. Nous avons quelques études, mais ce qui est important pour les adultes qui écoutent cette émission, c'est de savoir que même si on est en souffrance comme ce jeune homme, comme cet homme jeune de 28 ans, il existe des solutions. Alors, ce que je comprends dans ce témoignage, c'est que il est arrivé à 28 ans et a résisté à toute idée de consultation. Et qu'il est important d'abord que ses proches puissent l'inviter à aller parler de lui-même avec quelqu'un, sans nécessairement le précipiter dans un test de QI.
Gabriel Val, comment réussissent professionnellement les adultes surdoués ? Évidemment, on ne peut pas établir de loi générale ce matin, mais une idée répandue voudrait qu'une trop grande intelligence les rendrait trop souvent inadaptés au monde du travail. Pouvez-vous nous parler, par exemple, de la loi de Putt, qui expliquerait l'échec professionnel de surdoués en raison de leur surdon et non en dépit de leur surdon ? Expliquez-nous cette loi de Putt.
Alors, je réponds d'abord à votre toute première question, qui est que, pour simplifier, les surdoués réussissent mieux scolairement, et ce, en linéarité complète avec la hauteur du QI, réussissent mieux professionnellement. Donc ça, il faut quand même bien le préciser. Et par exemple, il y a une étude suédoise qui a porté sur 1 million d'individus. Plus on a un QI élevé, moins on est hospitalisé en psychiatrie. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire le fait d'être surdoué protège. Alors sinon, pour la loi de Putt ou Putt ?
De Putt ou de Putt, pas,
on
en entreprise.
On a tous les deux un anglais modeste,
P-U-T.
Voilà, P-U-T. Il faut quand même le préciser, là, pour le coup. C'est une loi selon laquelle les surdoués pourraient être défavorisés dans la vie professionnelle, dans la vie en entreprise, parce que les cadres peuvent avoir tendance à éliminer les surdoués pour qu'ils ne fassent pas d'ombre. Les plus talentueux pour qu'ils n'aient pas d'ombre.
Et donc, conseil aux surdoués en entreprise, jouez-la modeste.
Oui, absolument.
Bonjour Emeline.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez d'où ?
J'appelle de Bordeaux.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Alors, vous êtes reconnue dans le témoignage de Ludovic en début d'émission.
Oui, tout à fait, oui. J'ai une amie qui un jour m'a dit « Va écouter cette émission sur la radio et parler de zèbres ». Et les gens qui se décrivaient, j'avais l'impression qu'ils me décrivaient. Donc quand, et puis j'ai oublié, puis quand Ludovic a reparlé de zèbres, ça m'a rappelé tout ça, quoi.
Alors qu'est-ce que ça vous a rappelé d'ailleurs, dans votre propre cas ? Qu'est-ce qui a résonné en vous ?
C'est l'hypersensibilité que les gens décrivaient, en fait, du monde qui les entourait. Mmh. Donc voilà, j'étais hyper sensible à tout ce qui pouvait passer. Et puis du coup, moi, ça m'a pas donné franchement confiance en moi. Ça m'a plutôt, au contraire, je me suis sous-évaluée et puis j'ai pas réussi à vivre avec ça pendant très longtemps jusqu'au moment où j'ai découvert que j'étais comme ça. Et je suis allée voir quelqu'un pour m'aider à comprendre et à pouvoir vivre correctement ma vie, autant professionnelle que personnelle, avec ça. Je croyais que c'était un handicap au départ. Et après, je me suis rendu compte que non, et qu'on pouvait très bien réussir aussi avec cette hypersensibilité.
Monique de Kermadec, quelles sont les principales raisons qui peuvent pousser un adulte surdoué à consulter ?
Une certaine souffrance, une souffrance sur laquelle ils n'arrivent pas à mettre de mots, ils ne sont pas nécessairement déprimés. Une recherche sur eux-mêmes, c'est-à-dire le sentiment qu'ils ne se connaissent pas suffisamment pour pouvoir mener leur vie de façon assez libre, assez autonome. Et puis aussi, très souvent, c'est ce que j'ai appelé le faux self dans mon livre, c'est-à-dire des personnes qui ont fonctionné pendant des années avec une personnalité d'emprunt pour plaire à leur entourage, à leurs employeurs, à leurs parents, et qui un jour ne peuvent plus vivre dans ce corset et ont besoin de devenir eux-mêmes.
Faux self pour faux moi. C'est ça,
oui,
c'est
la d'une certaine manière, voilà. Oui, d'une certaine façon.
Gabriel Val, pour terminer, les surdoués, les adultes surdoués, sont-ils dotés d'un plus grand sens de l'humour que la moyenne ?
Oui. C'est en tout cas les statistiques le montrent. Alors non seulement ils ont le sens de l'humour, mais ils comprennent plus vite. C'est-à-dire que les enfants très tôt comprennent l'humour de leurs parents, ce qui d'ailleurs n'arrange pas toujours les parents.
Donc si je vous comprends bien, les humoristes qu'on va écouter tout à l'heure chez Nagui, Frédéric Segrist, Tanguy Pastureau, Tom Villa, sont peut-être des adultes surdoués.
Écoutez, c'est pas intégré dans les tests de QI, mais je crois qu'on pourrait le suggérer pour l'avenir d'intégrer le sens de l'humour dans les tests de QI.
Merci beaucoup Gabriel Val. Je recommande le Que sais-je consacré aux adultes surdoués au PUF. Merci Monique de Kermadec. L'adulte surdoué est publié chez Albin Michel. Tout de suite, intervention de Sabrina Nadjar de Femme Actuelle. Rebonjour Sabrina Nadjar.
Rebonjour Ali.
De Femme Actuelle, rédactrice en chef. Alors cette semaine, dans votre hebdo, il est question de danse.
Exactement, parce que je ne sais pas si c'est l'effet Danse avec les stars, la célèbre émission de TF1, mais de plus en plus d'hommes, après leur journée de travail, enfilent leurs chaussons comme d'autres lassent leurs chaussures de running ou leurs crampons. Alors aujourd'hui, ils constituent même 31% des inscrits aux cours de danse, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, qu'est-ce qui les motive, me demanderez-vous ?
Ah, je vous le demande, tiens.
Eh ben voilà. Eh ben écoutez, d'abord, tout simplement, la convivialité, c'est l'une des premières raisons invoquées pour justifier cette attirance pour les danses de couple, puisqu'il s'agit essentiellement de danses de couple. Alors après la salsa, de nouveaux cours de danse font leur apparition et les séduisent, comme la bachata, qui est originaire de République dominicaine, ou la kizomba, une danse africaine originaire d'Angola, dérivée des merengues. Alors, deuxième raison, la volonté de s'affirmer, qui contribue aussi au succès des danses de salon. Dans le tango ou la salsa, par exemple, l'homme mène la danse, avec pour mission de mettre en valeur sa partenaire. Et dans une société où on perd le contact avec l'autre, on apprécie cette proximité physique instaurée dans les cours, la plupart du temps, je vous le rappelle, en tout bien, tout honneur.
Et enfin, c'est bon de le rappeler.
Oui, et enfin, les hommes sont très pragmatiques, ils voient très vite les bénéfices de la danse, ils font du sport, perdent du poids et sympathisent avec d'autres personnes et ils peuvent même faire des rencontres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les danses de salon. Enfin, on se rend compte que certains se mettent aussi à la danse classique. Alors pourquoi ? Ben, rappelez-vous le film de Billy Elliot avec avec Jamie Bell. Eh bien, certains évoquent des regrets de petits garçons frustrés par une pression familiale et sociale durant l'enfance, et donc ils se vengent.
Un papier à lire dans le Femme Actuelle de cette semaine, et on va se mettre à la bachata avec Christophe André. Merci Sabrina Nadjar. Demain, on s'intéresse aux étiquettes que les élèves se collent entre eux au collège. Populaire, rejeté, cancre, ringard, bolosse. Difficile d'échapper à ces étiquettes plus ou moins faciles à assumer. On s'intéressera également à l'appartenance à un groupe quand on est collégien. Question témoignage 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com.